Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Donc lui, il fait vraiment des trucs fous. En fait, si j'avais pas peur, je serais beaucoup plus fou. Là, je fais des choses finalement très raisonnables.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Loïc Lemmer. Loïc est un entrepreneur français aux multiples succès qui vit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Il a créé et vendu plusieurs sociétés, dont Le Web, la première grande conférence tech européenne. Dans cet épisode, Loïc revient sur les moments clés de son parcours et sur l'importance de faire les bonnes rencontres. Il partage son enthousiasme pour son nouveau projet, Leaders, ses doutes ainsi que ses conseils aux entrepreneurs qui se lancent. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcasts en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément. Bonne écoute!
Moi, très bien. Bon, bah, du coup, je suis avec Loïc Lemmer. Donc, salut Loïc.
Salut Antonin.
Donc, Loïc, je te présente rapidement, même si je pense que les gens te connaissent. T'es un entrepreneur français. Tu vis à San Francisco. T'es connu pour plusieurs faits d'armes, dont le fait que t'aies monté Le Web, une des plus grosses conférences tech en Europe. T'as co-monté ça avec ton ex-femme. T'as monté Sismic, que t'as vendu à Hootsuite. T'avais vendu d'autres sociétés dans cette time frame. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu dis qu'en fait, depuis tout jeune, t'étais intéressé par la Silicon Valley. Et moi, je me demande d'où ça t'est venu, en fait. Qu'est-ce qui fait que t'étais intéressé par la Silicon Valley jeune, dans les années 90, quoi?
On va revenir à la préhistoire là, mais je sais pas. Ça a démarré en là, je vais vraiment passer pour un vieux con, mais quand j'ai eu mon premier Mac et le premier Mac, c'était le premier Mac.
Le Macintosh.
J'avais 10 ans. Ouais, c'était en 84, un truc comme ça. Ouais, quand il y a eu la fameuse campagne et en fait j'ai obligé mes parents à en acheter un. Ils en ont acheté un, qui était pour moi, évidemment.
Et ça coûtait pas une fortune à l'époque, ça?
Si, ça coûtait une fortune. Ça coûtait, je crois, de mémoire, ça coûtait 30 ou 40 000 francs français. Mais mes parents avaient un commerce, et j'ai réussi à les convaincre. C'était probablement ma plus grosse opération de vente à l'époque. C'était de vendre à mes parents qu'ils achètent ça, et ça coûtait une fortune. Je leur ai piqué. J'ai appris un peu à coder avec, mais j'étais nul. Et puis c'était pas très développé non plus. Et en fait, c'est là que le made in California est un peu rentré dans mes veines. En fait, je sais que ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais j'avais 12 ans quoi. Et là, il y avait pas d'internet, il y avait rien, mais il y avait déjà made in California. Et voilà. Et ensuite, depuis, bah ça m'a pas cette passion pour la technologie et là où ça vient m'a jamais quitté en fait. Et la deuxième grande étape, ça a été quand j'ai fait un stage en première année. J'étais obsédé par deux trucs, par la technologie, puis ensuite l'internet est arrivé. Et là, j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle Texas Instruments Semiconductor, qui était mon premier stage de première année à HEC. Et là, ils avaient Mosaic. Ils avaient Mosaic, le premier browser que probablement tes auditeurs connaissent pas ou pas beaucoup.
Qui a été fait par Netscape.
Ouais, et j'ai fait le tour de l'internet. grand moment de ma vie où réellement, tu avais une page qui s'appelait David Filo et Jerry Yang's Homepage, qui allait devenir Yahoo. Et il y avait dessus quelques centaines de sites et c'était tout l'Internet. Et j'ai réellement fait le tour de l'Internet tout seul. J'ai tout cliqué et j'avais fait le tour du monde, en fait. Et il y avait, je me souviens, le musée du Louvre virtuel à l'époque, qui était un tout premier site. Bref, je vais pas te parler de ça pendant des heures.
Ouais, mais c'est intéressant.
Ça, ouais, c'est le deuxième, si tu veux, sorte de révélation où je suis tombé amoureux de ça. Et depuis, ça m'a jamais quitté. J'étais online tout le temps. J'avais un modem 9600, je crois. Et Campus Herbe, putain. Et ensuite, le troisième événement, et après, je te laisse me poser d'autres questions, mais j'y pense en te parlant. Le troisième grand tournant dans ma vie, ça a été ma rencontre avec le japonais Joe Ito, qui est aujourd'hui le patron du MIT Media Lab et qui m'a appris à bloguer.
C'était en quelle année,
ça,
hein?
C'est de début des années 2000, genre 2002, 2003, un truc comme ça. On était dans une conférence, on était assis l'un à côté de l'autre, et c'était 2000, 2001, je sais plus, un truc comme ça. Et il blogue, ce que le speaker qui nous parlait, qui était passionnant, disait, et il commence à avoir des commentaires partout du monde entier, du Japon, des États-Unis, un peu partout. Et j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Explique-moi. J'ai complètement obsédé, je l'ai empêché de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai passé 2 jours avec lui. J'ai set up un blog. À l'époque, c'était Movable Type et Six Apart, machin. C'était très compliqué. Et il m'a appris. Et puis voilà, j'étais parti. Puis j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté à être en ligne, en fait. Après toutes les formes que ça a pris, aujourd'hui, c'est Facebook ou Instagram. Mais ça a démarré là. Et c'est la même chose, en fait. C'est juste l'acte partagé en ligne et de communiquer avec des gens, une communauté. J'ai démarré là, en fait. Voilà. Là, t'as les trois grands moments.
Donc, en fait, t'étais vraiment là au tout début, quoi. T'étais là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne machine.
Écoute, je crois qu'on n'est pas encore au début. Je crois que le début, c'est maintenant le début. Je sais pas si t'as vu la keynote de Zuckerberg à F8, cette année, la conférence de Facebook, où j'étais en personne, et tu vois, c'est un peu cette magie de la vallée, cette magie d'être dans la Silicon Valley, j'étais là au premier rang. J'avais Sheryl Sandberg là, deux sièges de moi, Zuck en face, et le patron monde du business de Facebook à côté. Et je lui ai dit à la fin de la keynote, j'ai félicité, je lui ai dit et toi tu fais quoi chez Facebook? Il m'a dit je suis patron monde du business. Ah, je lui ai dit, ça veut dire quoi ça? Bah, il me dit j'ai toutes les ventes de Facebook. Je lui ai dit, ah bon? Donc t'as quoi, 20 milliards sur ta responsabilité? Et il m'a regardé, il m'a dit non, 26. Et tu vois, c'est cette espèce de magie là qui est, je suis toujours comme un gosse ici. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que je trouve qu'ils ont eu vraiment, et ça a été très couillu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait une keynote qui ça va prendre 10 ans pour arriver tout ça. Mais je pense qu'on est qu'au début. On va voir, voilà, de la réalité augmentée surtout, et tout ce qui est online, qu'on regarde via un écran, puis après via un téléphone, va être juste sur notre tête d'une manière ou d'une autre.
Donc tu penses qu'il y a les mêmes opportunités pour quelqu'un qui commencerait maintenant, un jeune, qu'il y avait quand toi t'as commencé, quoi, et quand tu découvrais Internet?
Non, il y en a plus.
Plus.
Il y en a beaucoup plus parce que tout est à faire dans ces nouveaux. En fait, je regarde depuis 20 ans finalement tout ça. Je regarde et puis j'en suis un des petits acteurs. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout accélère. La capacité des gens d'abord de trouver des fonds. Personne savait ce que c'était une start-up il y a 20 ans. Personne savait ce que c'était un business angel. Regarde où on en est, y compris à Paris. J'ai passé un mois pour ma conférence Leaders. J'étais super impressionné. C'est très facile de trouver de l'argent. C'était très difficile à vendre. D'abord, ça, ça va rester. Après, on aura peut-être des petites crises. Si Trump déconne, il y aura une bonne crise, mais pour l'instant ça va, mais d'abord trouver des fonds, ensuite c'est très facile de coder et de s'entourer de ressources qui sont je veux dire, c'est très facile de faire une app ou un site web ou un avec beaucoup moins de ressources qu'avant. Il fallait des millions avant.
Mais d'ailleurs,
voilà.
Ouais, non, mais d'ailleurs, en parlant de ça, toi t'as monté ta première boîte à 24 ans, en fait, quand t'es sorti d'HEC directement, t'as ton agence web.
23.
Et à l'époque, Je me demande, parce que donc, moi, j'ai fait HEC aussi, et maintenant, il y a tout un mouvement qui fait que les... Il y a tout un mouvement maintenant qui fait que les startups, c'est en vogue, et ça devient presque une voie acceptable, même à HEC. Mais dans les années 90, est-ce que c'était pas justement quelque chose de plus compliqué à faire? Et est-ce que tout le monde ne s'attendait pas à ce que tu fasses de la finance ou du conseil ou ce genre d'activité?
Écoute, moi, j'ai fait un truc qui s'appelait... ça existe toujours, HEC Entrepreneur. Et on était pas beaucoup là-dedans, on était une trentaine à l'époque. Et en effet, c'était pas particulièrement populaire. C'était interdit de créer sa boîte sur le campus. Et je l'ai créé moi sans rien dire à personne en troisième année.
Pourquoi c'était interdit?
Parce qu'ils voulaient pas qu'on se distrait du programme en fait. Alors que le programme c'était d'être entrepreneur. Ça. Alors moi j'ai dit je fuck it comme on dit chez nous et je l'ai fait quoi. Et en fait c'est très simple, j'ai fait un stage de dernière année chez Peugeot et comme j'étais obsédé par l'internet et la technologie, j'ai dit à mon maître de stage qui s'appelle Paul Sevin toujours et qui est plus chez Peugeot mais qui s'appelle comme ça je lui ai dit il faut que vous soyez les premiers à vendre des voitures sur internet 96 Et ils ont fait un site, j'ai créé un site qui s'appelait Cyberoccasion en 96 pour Peugeot pendant mon stage. Personne m'aidait parce que personne savait de quoi je parlais. Et à la fin du stage, Paul m'a dit « Pourquoi tu ne nous rejoins pas ? On te recrute. » Et j'ai dit « Non, par contre, parce que je veux créer ma boîte, par contre, tu peux être mon premier client. » C'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai eu un premier client. Et après, donc j'étais une agence en fait. C'est chiant maintenant, mais je faisais des sites web. J'ai fait une des toutes premières bannières de pub en ligne. J'ai eu un client, il était content, j'en ai eu deux, Elia Fabergé, et trois, Chanel, Le Printemps, toutes les marques françaises, puis je me suis retrouvé avec une équipe d'une cinquantaine, puis une centaine de personnes, et je faisais site web, et je me suis aperçu là ce que ça voulait dire le terme to scare. Do you scare? Est-ce que, je sais pas comment on dit en français.
Grossir à l'échelle, quoi, mais.
Non, ça veut dire, c'est tout simple. Enfin, tiens, pour tes entrepreneurs qui écoutent, c'est un truc que j'ai mis quelques années à m'en apercevoir. Quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, est-ce que tes coûts montent de manière linéaire ou pas? Et une agence, tout ce qui est service, le conseil, tout ça, plus tu montes en chiffre d'affaires et plus tes coûts augmentent parce que tu as besoin de gens, en fait. Tu vends des gens, du temps des gens. Et je me suis aperçu de ça, tu me diras, tu aurais pu t'en apercevoir avant. Mais quand tu le vis, c'est toujours différent. J'ai jamais plus voulu faire de service. Parce que c'est bien, c'est intéressant comme business, mais tu peux jamais faire ça. C'est-à-dire avoir ton chiffre d'affaires qui monte beaucoup plus vite que tes coûts. Et du coup, faire un business très, très profitable, qui scale, qui a des économies d'échelle, c'est comme ça qu'on dit peut-être.
Il y a autre chose qui est intéressant dont je t'avais vu parler ou quelque chose que t'as écrit peut-être, c'est que tes meilleurs business, à chaque fois, c'était des business que tu poursuivais pour ton intérêt, en fait, dans le domaine. Et c'était jamais des business que tu essayais de lancer en tant que business. Et je pense, peut-être par rapport à le web aussi, que tu as l'air d'avoir lancé finalement comme un side project. Ça s'appelait pas le web au début. Et c'est le blog, je crois.
Les blogs.
Ouais. Et vous aviez fait une première petite conférence, enfin, quand même 200 personnes. Et puis ensuite, vous avez fait 500 personnes. Et puis ensuite, ça a explosé. Et je retrouve ce thème à chaque fois de... comme si quand on, c'est revenu plusieurs fois dans le podcast, comme si quand on essaye de monter un business à tout prix, c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand on va cultiver ses intérêts, on arrive finalement à des choses qui marchent beaucoup plus, quoi. Qu'on fait avec.
Oui. Oui, je pense que c'est le plus facile pour démarrer. Et puis les exemples sont tous là. Travis Kalanick trouvait pas de bagnole à ma conférence. Ça c'est pas trop, mais Uber a été inventé à Paris à ma conférence à le web parce que Travis et Garrett, les deux créateurs, trouvaient pas de taxi et du coup ils se sont dit ah ben si j'ai besoin d'un taxi, donc c'est ce que tu dis, tu vois, c'est là c'est pas une passion mais c'est plus ton propre besoin, c'est une bonne manière de démarrer. Airbnb a démarré parce que il y avait plus de chambres d'hôtel à San Francisco parce qu'il y avait une conférence qui prenait tout et ainsi de suite. Tu peux trouver énormément d'exemples comme ça. Et dans mon cas, ouais, ça a toujours été quelque chose qui était soit ma passion, soit mon besoin. Je suis encore en train en ce moment. Et Leaders, à l'époque, les blogs, donc, c'était tout simplement, j'étais passionné de blogs. Et donc j'avais ce besoin de rassembler ces tout premiers blogueurs. Et c'est pour ça que ça s'appelait les blogs. On était 200 blogueurs venus du monde entier, déjà une vingtaine de pays, déjà tout en anglais. Et j'avais complètement oublié le café, il n'y avait aucune logistique, mais ça a marché, tout le monde était ravi. Et en fait, ouais, c'est, je pense, c'est une bonne manière de démarrer, c'est de te dire, au lieu d'essayer de faire un truc révolutionnaire, qu'est-ce que toi tu aurais besoin, de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui te passionne. Il y a un truc japonais qui s'appelle les mots sont tellement différents.
Otaku.
C'est une sorte. Pardon.
C'est pas otaku.
Non, c'est c'est un cercle et c'est des cercles concentriques. Je vais te le retrouver. C'est des cercles concentriques dans lesquels, donc je vais te le faire. Ça te dit à quoi tu es bon, en quoi tu es bon, qu'est-ce qui te passionne. Et tu sais, les cercles comme ça se recoupent. Mm-hmm. Et ensuite, qu'est-ce que les gens te paieraient pour? What would you be paid for? Et ensuite, je crois qu'il y a qu'est-ce qui contribue au monde dans lequel tu es, qui améliore le monde. Et tu as 4 ou 5 cercles comme ça. Et au centre, si tu te mets au centre, c'est là que tu es le meilleur. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Leader. Enfin, je crois en tout cas. J'adore. Enfin bref, on va en parler tout à l'heure peut-être. Mais d'arriver à trouver quelque chose dont tu es passionné, sur lequel tu es bon ou tu penses que tu peux être bon, qui serve aux autres et qui sont prêts à payer pour ça, c'est un bon départ. C'est 3 ou 4 points, là, c'est un bon départ.
En plus, ça crée plein d'externalités ensuite parce que du coup, pour le web, c'était un truc que t'adorais, rassembler des gens, organiser des conférences, rencontrer des gens intéressants, des entrepreneurs. Ça t'a aussi permis, par là, de rencontrer Reid Hoffman notamment, et t'as été en fait le premier investisseur dans LinkedIn.
Ouais, avec Marc Andreessen.
Ouais, ça c'est.
Mais oui, mais c'est comme ça qu'on a. Tu vois, je te parlais de Joe Ito, j'ai rencontré Joe Ito. Joe Ito m'a présenté Reid. Je connaissais pas. Et tout ça, c'est avec les blogs. C'est comme ça que ça a démarré. Parce qu'en fait, ça crée des connexions. Parce que Reid, il lisait ça au tout début. Il a créé un des tout premiers, si ce n'est le grand premier réseau social. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook et autres. C'était Friendster, le premier réseau social, vraiment. Mais ça, ça n'a pas marché.
Bah justement, eux, ils ont des problèmes de scale, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils avaient, ouais, pas, ils avaient des problèmes de serveur, je crois. Ça ne marchait jamais. Et du coup, les gens ont fini par aller sur Facebook.
Ouais, c'était un peu geek surtout, alors que Facebook tout de suite a été très, très utilisable, très grand public. Mais en fait, la leçon, c'est que moi, si tu me suis, tu verras, je passe tout le temps mon temps avec des gens. Je suis tout le temps dehors, et quand je suis pas dehors, quand je suis dans mon bureau comme là maintenant, ben je passe aussi du temps avec des gens. Ouais. Et en fait, ça c'est un peu ce qu'on apprend pas à l'école, c'est que toutes les opportunités que j'ai eues, toutes les choses intéressantes que j'ai eues, je les ai faites parce que j'ai rencontré, c'est des rencontres. C'est le plus important, ça s'apprend pas dans des bouquins ou dans des cas. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'adore les événements, autant y participer que de créer les miens. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Reid, en effet. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que quand Reid a créé LinkedIn, il m'a envoyé le deck de LinkedIn, donc c'est le premier slideshow de LinkedIn, et la valorisation c'était 10 millions pré-monnaie, donc il y a 12 ans, un truc comme ça, ou 13 ans, 2003, Joey a dit non, et Jeff Clavier a dit non, parce que c'était trop cher. Après il y en a un autre qui m'a dit non, moi je crois pas aux réseaux sociaux, et donc ça a l'air aujourd'hui complètement évident. Mais à l'époque, je te garantis qu'il y avait, ça se comptait sur les doigts d'une main, les gens qui pensaient que ces réseaux sociaux allaient devenir quelque chose d'intéressant. Mmh. Et voilà, j'ai investi, j'ai bien fait. C'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. Mais bon, j'en ai raté d'autres, hein. J'ai pas investi dans Uber. Je voulais, mais j'ai pas été assez vite. Et puis, bref, ça a été un peu compliqué. Mais c'est pas grave. L'argent, c'est le truc que tu apprends assez vite. C'est que il faut, enfin, ma philosophie là-dessus, il en faut assez pour vivre bien, tu vois, une maison et être autonome, c'est génial. Voilà. De pouvoir te dire, je peux arrêter, fabuleux. Et d'arrêter, pas avec beaucoup de moyens, hein, d'arrêter, juste d'être autonome. Je pense que ça, c'est un bon objectif à avoir. Après, tout ce qui dépasse, franchement, ça sert pas, c'est des passions. Mmh. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très content de la vie que j'ai et j'ai appris assez rapidement que tout ce qui est au-dessus de ce que je viens de décrire, d'être capable d'avoir tes passions, d'assurer l'avenir de tes enfants si tu en as, et une belle maison, c'est un peu superflu. Donc ouais, c'est pas très grave. En fait. Moi, je veux pas être milliardaire, je m'en fous complètement.
Ouais, toi, t'es assez minimaliste. Je disais dans ce que t'écris et même dans ce que tu dis que d'ailleurs tu connais quelques milliardaires et que la plupart sont pas forcément très heureux. Et je lisais des articles de toi qui disaient que t'avais plutôt tendance à essayer d'avoir un minimum de choses et te concentrer sur les expériences importantes, quoi.
Ouais, et écoute, j'ai même passé un an dans une valise, là. J'ai essayé, parce que j'avais jamais essayé.
T'as juste pris une valise et c'est tout ce que t'avais comme affaire, c'est ça?
J'ai mis tout ce que j'avais chez Omni, qui est un truc de storage aux États-Unis, qui est pas mal. Ils te mettent tout dans une app, donc tu vois tout ce que tu as. Et j'ai jamais réussi. J'ai toujours été fasciné par les gens qui postent. Je sais pas si t'as vu, il y a tout un trend. J'ai moins de 100 items, 100 objets qui m'appartiennent. Et ça, j'ai jamais réussi à moins de 100, c'est compliqué. Surtout quand t'as des enfants. Mm-hmm. T'es toujours là, Antonin?
Ouais, je suis toujours là.
Ah, parce que l'image était passée. Ça, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à aller très, 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 très minimaliste puisque la seule chose de valeur qui me restait, c'était ma voiture. Parce que je voulais aussi me débarrasser de la voiture, mais d'abord, j'aime bien ma Tesla. Et ensuite, j'en ai besoin pour aller faire du kitesurf. Donc, je me suis aperçu que le minimum, vraiment, c'était... Et tu peux prendre un Uber, mais t'es comme un con. Si tu prends un Uber, si t'arrives sur la plage sous le Golden Gate, devant le Golden Gate, et t'as besoin toujours de deux ou trois ailes de kite, parce que le vent change. Et là, si tu les laisses sur la plage, on te les pique, et ça vaut 2 000 $ chaque aile. Donc j'étais obligé de garder une voiture. Donc, j'ai gardé une voiture, mon matos de kite, mon matos de parapente, et un Mac, quoi. Et après, bon, quelques fringues. Mais tu vois, les fringues, c'est le t-shirt leader, ça, depuis. Et j'ai vécu un an comme ça, alors sans maison aussi, pour voir.
Dans des Airbnb?
Pardon?
Dans des Airbnb, du coup?
Non, j'étais un peu chez ma copine, j'étais chez des amis pour voir. J'ai fait du couchsurfing d'amis, pour voir. Vraiment pas parce que j'avais pas les moyens, mais juste pour voir. Et j'ai énormément voyagé. Mais vraiment chaque semaine, quoi. Et je me suis aperçu, là, tu vois, je viens d'acheter une maison. Je me suis aperçu qu'une maison, c'était pas mal quand même. D'avoir, tu vois, tes petites affaires là et tes... Voilà, ça, c'est pas mal.
Et il y a autre chose que t'as fait qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as fait une retraite Vipassana.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ouais, je vais retourner.
Ah ouais?
Ouais, ça a été un des grands moments de... Tu m'inspires avec tes questions. Tiens, il faudrait que j'écrive un post avec... je vais le noter. Avec les grands moments qui ont changé un peu ma vie. Et ça, c'en est un. C'est... où est-ce qu'il est, mon cahier? Ah, voilà. C'est... j'ai été 10 jours dans une retraite en silence qui s'appelle Vipassana. C'est... pardon.
Tu notes.
Excuse-moi, je prends des notes. Prends toujours des notes de trucs que je veux écrire qui fera une newsletter ou un...
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est un bon... Ça a été vraiment life-changing parce que c'est brutal. Hein. T'arrives là-bas, c'est pas religieux, mais c'est des moines bouddhistes. Mais c'est pas religieux, c'est pas te rendre bouddhiste. Mais tu passes quand même 8 à 10 heures par jour à méditer. On se lève à 4 heures du matin, c'est vegan, donc j'ai perdu 7 kilos en 10 jours, ou 8 même. Tu manges presque rien, et tu manges juste deux fois par jour en fait, mais une fois qui est très légère, donc vraiment une fois par jour. Donc tu fais du ce qu'on appelle intermittent fasting dedans, et puis parce que c'est bon pour la méditation, pour ton corps, d'être clair. Et c'était incroyable. 10 jours coupé de tout, pas de device, pas d'iPhone, pas de Mac, pas de, ils te laissent pas lire, pas de Kindle, pas de, ils te laissent même pas prendre de notes. Donc tu prends même pas de notes. Tu reviens avec rien. Et j'y suis allé avec le seul objet que j'ai amené avec moi, c'est un oreiller, parce que j'avais peur qu'il soit pourri, et j'ai bien fait. Et donc mon seul luxe, c'était mon oreiller et une couette. Deux. Je suis revenu avec deux trucs. Et j'ai bien fait parce que c'était militaire. On était dans des dorms à 30, des dortoirs. Et tu faisais la queue pour la douche le matin. C'était vachement. Je sais que j'ai l'air con en disant ça, mais.
Et qu'est-ce qui était transformant dans cette expérience? Qu'est-ce qui était incroyable?
La première chose, c'est de sentir ton cerveau ralentir. Enfin, c'est-à-dire que tu as plus de, pour parler en langage ordinateur, t'as plus d'input, plus d'output. Il y a plus rien qui rentre. Tu vois les arbres et les oiseaux, et c'est toujours les mêmes pendant 10 jours. Et il y a plus rien. Il y a plus rien d'écrit. Il y a plus de pub. Il y a plus de personne qui te parle. C'est totalement en silence. Ils te laissent même pas faire. Ils disent no eye contact. On regarde pas les gens dans les yeux. Donc il y a aucun contact avec l'extérieur. Donc pas de input, pas de output. Donc ce qui veut dire que tu macères en fait avec toi-même. Et ce qui se passe, c'est pendant 3 jours, tu vois, si tu prends un verre, si tu mets de la boue dans un verre, de l'eau qui est sale hein, dans un verre. J'arrive pas à parler français. Tu mets de l'eau avec de la terre, ça va sédimenter, ok, ça tombe au fond, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est ton cerveau. Et au-dessus, tu as c'est clair, et dessous, tu as de la boue, enfin, ou du ce qui est sale, les sédiments. Et là, dans ma tête, pendant 3 jours, ça prend vraiment 3 jours, en fait, si tu fais rien ne sort, rien ne rentre, tu passes ton temps avec, on est tous, quoi, avec une centaine d'idées. Par exemple, là, en ce moment, je suis obsédé par lancer mon produit sur Leaders. Bon. Et puis, j'ai tout un tas de trucs. Bon. On a tous une centaine de choses comme ça, positives, négatives, mes enfants, tout ça. Et au bout de 3 jours, ton cerveau a pensé à tellement tous ces trucs-là que tu les drops, tu les laisses tomber et ils tombent au fond du verre. Et tout d'un coup, tu as une clarté, un calme. Déjà, ça, c'est numéro un. J'avais jamais ressenti ça. C'est-à-dire que rien. T'es capable de rester une heure entière, les yeux fermés à méditer avec, au lieu d'avoir, moi, si je ferme les yeux maintenant, je vais avoir une idée par seconde qui débarque. Là, une par toutes les 2 minutes, 3 minutes. Et donc, c'est que t'es très, très calme. Et à la fin, c'est même plus rien. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, écoute, pendant 10 jours, t'as toute ta vie qui défile. Tous les bons moments, les mauvais, les décès autour de toi, les moments les plus durs, les meilleurs, les plus beaux. J'ai eu les meilleurs rêves que j'ai jamais eu dans ma vie et les pires cauchemars dans 10 jours. Donc, c'est très, très intense comme expérience. Et puis, surtout, tu prends du recul par rapport à tout. C'est-à-dire que quand tu repousses tout, mais y compris tes meilleurs amis, tu parles à personne, ta famille, rien, plus rien. Tu prends vraiment du recul, et je suis sorti de là totalement transformé sur ma manière de voir la vie, et notamment les choses matérielles. C'est-à-dire que tu t'aperçois que là, j'avais rien, une couette et un oreiller. Et tu t'aperçois que j'étais très heureux, en fait. Et donc, du coup, depuis... c'est très facile pour moi de faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est pas. Et depuis, je médite tous les jours, 20 minutes tous les matins. Là, je viens de le faire parce qu'il est 9h du matin ici. Et je le fais vraiment, alors pour le coup, de manière religieuse. Si je peux, je fais un peu plus.
Tu utilises une application pour méditer?
Oui, j'utilise Calm. CALM, qui est paradoxal d'utiliser une application pour faire de la méditation, mais réellement, je m'en sers pour deux choses. Je me sers pas des cours, je me sers d'un compteur. Donc, ça compte. Parce qu'il faut que ça te réveille, hein, au bout de 20 minutes. Et ensuite, ça compte combien de jours de suite tu l'as fait. Ce qui est c'est assez motivant. C'est-à-dire de pas, tu sais, c'est le truc numéro un dans Snapchat. Les jeunes qui utilisent Snapchat gardent le dialogue de conversation ouvert. Mm-hmm. Et ça leur dit combien de jours pour rester en haut. Même s'ils partent en vacances, ils filent des fois leur truc à un pote pour qu'ils continuent à chatter, pour que ça reste en haut. Là, c'est un peu comme ça. En fait, ça te dit, t'as médité depuis 15 jours. Et si tu rates un, tu reviens à zéro. Donc, c'est motivant.
Et c'est intéressant la manière dont tu décris Vipassana, parce que moi, j'ai des amis qui l'ont fait et qui me le décrivaient d'une manière différente. Ils me disaient, toi, toute ta vie, en fait, c'est comme si tes souffrances ou ton âme, c'était un feu de bois. Et toute ta vie, on jette des bûches dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un te double dans la queue, on jette une bûche sur le feu en plus. Si quelqu'un te parle mal, on jette une bûche sur le feu. Ta rupture avec ta copine, ta boîte qui marche mal, ce genre de choses. Et en fait, Vipassana, ce qui se passe, en fait, du coup, on n'a jamais le temps de laisser brûler les bûches du dessus, tu vois. Et à Vipassana, ce qui se passe, c'est que les jours passent et du coup, les bûches du dessus partent, donc tes problèmes superficiels, et t'arrives à des problèmes qui sont un peu plus importants. Tu les traites et t'arrives en fait au vrai problème de fond dans ta vie, c'est-à-dire les bûches que t'as jamais vues dans le fond du feu. Et moi, c'est un ami qui me racontait ça, que du coup, il était vraiment comme face à lui-même en fait pendant une semaine, et qu'il avait énormément appris sur qui il était, ce qu'il voulait dans la vie, pourquoi est-ce qu'il faisait les choses, et qu'il avait beaucoup gagné en connaissance de soi, self-awareness, disent les Américains.
Oui, c'est très dur. C'est très dur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Une fois dans sa vie, il faut le faire. C'est gratuit. C'est juste des donations. N'importe qui peut y aller. Et c'est très, très dur.
Ouais, mais, moi, je vais le faire bientôt, ouais.
Il faut le faire. Moi, je vais retourner là. Je vais retourner. Je pensais y aller une fois par an. J'ai fait une retraite, en gros, grosso modo, une fois par an, mais pas aussi dur que ça. Parce que 10 jours, là, c'est...
C'est long, ouais. Et il y a autre chose qui est, donc, maintenant, ta nouvelle entreprise, c'est Leaders. Donc Leaders, si je le résume, c'est une place de marché entre les gens qui veulent organiser des conférences et les speakers.
Donc ça c'est le court terme, oui.
Le court terme. Et d'ailleurs, vous avez fait un événement récemment à Paris qui a bien marché. C'est quoi le long terme, du coup?
Oui, qu'est-ce que t'as entendu sur l'événement à Paris?
Bah, que c'était bien, que les speakers étaient bons. J'ai pas mal d'amis qui y sont allés, hein, donc...
Ils sont contents?
Ouais, ils étaient contents, ouais.
D'accord. Non, c'est important pour moi, parce que... ce qui est important, c'est de plaire. Ce qu'on veut faire avec Leaders... C'est, je le dis tout le temps, c'est marrant, mais trouver le prochain Mark Zuckerberg. Mais c'est de trouver, comme je te disais, à un moment, j'avais Travis Kalanick dans ma salle à Le Web qui allait créer Uber qui vaut 70 milliards. Et donc, ces événements ont cette capacité de rassembler, de trouver des gens comme ça. Et ce que je veux faire avec Leaders, c'est une plateforme qui me permette de faire ça, pas uniquement avec des événements, mais en ligne. C'est vraiment le but. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de connecter avec un système de booking, en fait. D'un côté, on a 5000 speakers. On n'a encore rien lancé, hein. On a 5000 speakers. Et de l'autre, on a des événements qui veulent les booker. Donc, ça va être un peu comme Uber. Tu bookes un speaker. Voilà. Donc, ça, je fais ça. J'y suis presque, là. 3-4 semaines, c'est toujours plus long qu'on pense. Je suis un peu perfectionniste, peut-être. J'ai une toute petite équipe. Enfin, je suis pas très fier de moi sur la vitesse d'exécution. Mais
justement,
mais
j'interromps. Je suis désolé, hein, j'interromps beaucoup. Mais là-dessus... Là, donc, tu lances une nouvelle boîte après toutes tes anciennes, et ça faisait un petit moment que tu n'avais pas lancé vraiment une boîte. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui fait peur, du coup, quand tu as eu, en tout cas, plusieurs succès, de lancer parce que tu repars à zéro, quoi. Donc, tu relances vraiment un nouveau truc. Tu te dis pas, si ça rate, je vais passer pour un con, surtout que tu es quelqu'un qui est quand même assez connu dans la sphère tech, entrepreneuriale.
Bah oui, et mon événement à Paris Leader, c'était pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y avait le web avant, mais tu sais, tu sais pas, quoi. J'ai 44 ans maintenant, j'avais le même stress, si ce n'est pas pire, pour répondre à ta question, un stress supérieur, en fait, parce que en effet, cette peur d'avoir l'air con, tu l'as de plus en plus, parce que quand tu démarres, quand j'étais à 23 ans à la sortie de l'école, bon, bah, t'as rien à perdre, hein. Est-ce qu'on peut faire une petite pause dans ton podcast?
Ouais, on peut. Je couperai le son.
Ok, j'arrive, faut que j'aille ouvrir à quelqu'un.
Vas-y.
Oui, donc t'as plus de pression en fait qu'avant, mais c'est assez intéressant c'est un peu comme quand tu vas méditer, c'est assez intéressant de la maîtriser. Mais c'est vrai que j'ai tendance à moins lancer vite parce que j'ai peur que ce soit déceptif, tu vois, que en effet t'as fait tout ça avant pour arriver là. Alors, et c'est une connerie. Ouais. il vaut mieux le lancer puis expérimenter, mais bon, c'est comme ça, ça va venir.
Mais il y a un truc qui est intéressant, ouais, en tout cas, avec Leaders, c'est la manière que tu as approché pour le lancer. C'est que tu l'as fait en quasiment 100% transparent, c'est-à-dire que tu avais avec ta newsletter, tu tenais informé les gens sur l'avancement du projet, tu as partagé tes emails que tu avais envoyés avec tes investisseurs. Et je trouve que ça, c'est une manière vraiment intéressante de procéder, parce que ça va dans toute cette logique de montrer son travail, en tout cas de partager son travail, d'être transparent sur ce qu'on fait, qui est quelque chose que toi, tu adoptes depuis super longtemps, depuis le début, en fait, vu que tu blogues tout le temps, que tu fais des vidéos.
Ouais, et je continue d'ailleurs. Hein, c'est d'ailleurs un des pour ta communauté. C'est la meilleure chose que j'ai fait depuis un an et demi, c'est une newsletter qui est en fait une forme de blog, sauf que tu l'envoies par email. Mais je croyais pas tellement à l'email, et en fait, je suis passé de 0 à presque 40 000 maintenant abonnés, et c'est incroyable. D'ailleurs, j'en ai pas envoyé là depuis 4 semaines. Depuis la conférence, je suis complètement, j'avais besoin d'une pause. Je vais le faire là. Mais oui, plus tu es transparent, plus tu déclenches d'opportunités en fait. Et c'est pas naturel, toujours pas en fait pour la plupart des gens que je connais. Mais c'est assez facile. Il suffit de pas trop se poser des questions, un peu comme quand tu lances un produit, ce qu'on disait tout à l'heure. Pas trop se poser des questions et puis juste envoyer en fait, hein, partager quelque chose. Donc ça peut commencer avec juste un statut Facebook, mais c'est la meilleure chose que j'ai fait, oui. Oui, de le montrer en créer son business en transparence. Je fais plein de Facebook Live aussi. Ça permet de voilà, j'avais pas mal de grandes entreprises par exemple qui suivent le projet Leaders, qui sont venus, qui ont acheté des tickets à ma conférence, qui seront des clients après, et donc c'est vraiment que du positif. Je recommande vraiment de faire ça. Et le frein numéro un pour les gens de pas le faire, c'est qu'ils pensent que c'est pas intéressant. Et en réalité, c'est toujours intéressant. N'importe qui, un débutant qui démarre une boîte, c'est très intéressant.
C'est toujours de passer de 0 à 1 qui est le plus dur, mais ça, avec n'importe quel projet, si t'as jamais écrit d'article de blog, c'est ton premier article de blog qui va être super dur à publier parce que il y a la peur de passer pour un con, il y a la peur que ce soit nul. Alors en fait, ce dont tu te rends compte, en tout cas, si t'as rien, si t'as pas monté de truc qui a eu du succès avant, ce dont tu te rends compte quand tu lances ton premier article, bah, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Et du coup, c'est pas si grave. Tu peux en faire de plus en plus. Et comme tu dis, ça augmente tes opportunités. Mais comme tes opportunités augmentent, plus tu rencontres des gens, en fait. Donc, plus tu rencontres des gens, plus tu partages ton travail et plus t'as des opportunités, des externalités positives qui peuvent se créer et qui peuvent faire des choses un peu magiques comme, donc, Reid Hoffman, mais comme ces entreprises dont tu parles qui sont devenues ensuite intéressées dans le projet de Leaders, quoi.
C'est ça. Et en fait, je te dis très souvent, il s'agit de partager des petites choses, en fait. Et à chaque fois que je discute à quelqu'un qui aimerait faire ça mais ne le fait pas, il se dit, mais c'est pas intéressant. Et en fait, c'est très intéressant.
Mais prenons mon exemple, par exemple. Moi, j'ai un podcast. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Tous les lundis, je sors un épisode, en gros. C'est quoi une chose que je pourrais faire en plus pour aller plus dans cette logique?
Une newsletter.
Alors, j'ai une newsletter où j'envoie l'épisode, mais c'est peut-être un peu trop basique. Peut-être que je pourrais faire une newsletter.
C'est bien. Non, mais si tu racontes simplement l'histoire, comment dire, tes problèmes, et plus tu es personnel et plus les gens sentent que c'est toi, en fait, derrière. Et tu vois, là, j'ai arrêté ma newsletter pendant 2 ou 3 semaines, et fine, je suis pas un robot, quoi. Je suis pas Business Week. C'est moi, quoi. Donc, je suis crevé après la conférence, je fais une petite pause. C'est ok. J'ai discuté avec tu connais le blog Wait But Why?
Ouais, c'est très très bien.
Vraiment une référence. Bon, ben j'ai croisé le créateur de ça. Il est tout seul. Je crois qu'il a un salarié à TED la semaine dernière. Et lui, il m'a dit, moi, j'écris pas pendant un mois. Puis d'un coup, paf.
Ouais. D'ailleurs, son article le plus connu, c'est celui sur la procrastination où il explique qu'il procrastine sans arrêt. Et ensuite, il pond un truc gigantesque et génial. Qui va être lu par des millions de personnes. Il y a différents modèles.
Ouais. Il a une newsletter avec 500 000 abonnés. Et même, il a la même conclusion que moi. Son premier outil de travail, c'est l'email pour diffuser ce qu'il fait. Mais je veux dire par là, c'est ça. Il envoie uniquement quand il est content, en fait, de ça. Donc, je sais pas. Il y a du pour et du contre. Moi, j'écris quasiment tous les dimanches, une fois par semaine. Et ça fait plusieurs personnes qui me disent que eux font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent que quand ils sont fiers de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont fait. Donc, mais bon, le plus important, c'est de partager, la régularité ou pas, c'est pas pareil.
Et c'est des trucs que tu transmets à, parce que toi, t'es dans la Silicon Valley, donc t'es complètement imprégné de cette culture, de l'apprentissage, de la réinvention. Est-ce que c'est quelque chose que t'essayes de transmettre à tes enfants dans leur éducation? En tout cas, qu'est-ce que t'essayes d'apporter de toute l'expérience que tu as dans la Silicon Valley, toi? Parce que je sais que tu citais, par exemple, beaucoup The Startup of You de Reid Hoffman, dont le concept est, en fait, de se voir comme une entreprise et d'être sans arrêt en train de déjà de se marketer, mais aussi d'apprendre, de se réinventer. Qu'est-ce que toute ton expérience dans la Silicon Valley et en rencontrant ces entrepreneurs, qu'est-ce que tu essaies d'en transmettre, en gros, à tes enfants dans leur éducation? Parce que c'est complètement différent de la France et de l'état d'esprit qu'on a en France. Et même dans les grandes écoles, en fait, j'ai beaucoup plus appris en rencontrant des gens, que ce soit dans la Silicon Valley ou ici, en lisant des bouquins, qu'à l'école, en fait.
Oui, écoute, je crois pas que ce soit si différent que ça. J'ai l'impression que j'ai vu pas mal d'incubateurs, d'accélérateurs, de start-up à Paris à l'occasion Leaders. Et je pense que les deux sont en train de vraiment se rapprocher. Mais c'est vrai qu'il y a des spécificités ici. Ben, la première spécificité, c'est le nombre de personnes qui font des choses extraordinaires. Ça c'est certain. Sinon, pour mes enfants, mais écoute, d'abord, je pense qu'ils lisent un peu ce que je fais, comme pas mal de gens, mais on en discute. Ça me fait toujours plaisir. J'avais Arthur qui a 21 ans, mon fils sur scène à Leader. C'est lui qui a fait la clôture. C'est le truc dont je suis le plus fier de la conférence. C'est d'avoir d'abord découvert 450 nouveaux entrepreneurs français avec notre plateforme. Et ces 450-là, ça a vachement plu à Business Insider. Ils ont fait les 100 profils. Et sur les 100, on a pris 8 qui ont fait le closing. Et c'est mon fils qui était le host, c'est pas moi. Moi, j'étais au premier rang, je regardais. Et c'était génial. Donc, j'essaie de leur transmettre ça. Après, tu sais, je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour être un entrepreneur. J'ai 3 fils. Je suis pas certain que les 3 seront des entrepreneurs parce que certains peuvent être aussi des managers dans une grande entreprise et très heureux comme ça. J'ai plein d'amis. J'ai un de mes amis, Julien Codorniou, qui excelle en étant, il est patron de Facebook Atwork. Non, c'est plus comment, je sais plus.
Workplace. C'est le Slack.
Merci. Il est patron, Julien Codorniou, il est patron de Workplace. Et lui, il excelle et il s'éclate à être un des patrons d'une grande entreprise comme ça. Mmh. Et c'est génial. Donc, je pense que tout le monde doit pas forcément être entrepreneur. Et pour revenir à mes fils, je pense qu'ils vont tous réussir. Mais pour répondre à ta question, la passion, le fait de faire des choses avec passion, de le faire avec le plus de qualité, quoi que tu fasses, le plus de qualité possible, et au point où ça devient une obsession.
Toi, imaginons que tu te retrouves à 20 ans là, tu reviens à 20 ans, qu'est-ce que t'as, et que t'as aucune de des connaissances que t'as actuellement, qu'est-ce que t'apprendrais en premier?
Écoute, spontanément, je vais te répondre avec ce qui vient juste de m'arriver, ça va être complètement paradoxal, mais la base pour tenir un business plan, la base, vraiment la base, pas un an de compta, hein, mais la base, de savoir ce qu'est un P&L, profit and loss, de savoir comment fonctionne. Vraiment la base.
Pourquoi tu t'es trompé là-dessus?
Non, parce que j'ai fait HEC, j'ai eu la chance d'apprendre ça à HEC Entrepreneur et de l'apprendre de manière très concrète. C'est-à-dire, pas dans des bouquins, mais tu vois bien qu'enfin, on faisait des simulations sur des petites startups, on n'appelait pas ça des startups, mais... Mmh. Et ça, c'est un truc, tu vois, tous les mois, je regarde mon PNL avec Leader, c'est toujours resté depuis 20 ans, en fait. Mais t'as pas besoin d'être un expert en compta, hein. J'ai détesté, moi, la compta. Mais la base, quoi. Comment ça fonctionne, c'est assez simple, en fait. Ce qui rentre et ce qui sort, et puis apprendre à être obsédé par ça. Et ensuite, je pense, la deuxième chose, c'est, justement, on va appeler ça le networking, c'est un peu péjoratif, mais à quel point c'est important d'être en contact des gens et d'apprendre avec eux. Et de faire en sorte que de leur communiquer ce que tu fais et puis de c'est ça aussi un leader. Un leader c'est d'être capable de d'avoir des gens qui te suivent sur tes projets. S'ils investissent comme business angel, ils te suivent. S'ils te lisent, ils te suivent. Et ça c'est très important parce que si deux entrepreneurs font exactement la même chose, il y en a un qui a une communauté et l'autre pas. Une communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes en ligne ou pas qui le suivent. La différence est très très importante. Ça fait pas du tout la même chose.
Bon, bref, on va finir comme ça. Je peux te libérer pour ta réunion. Question entretien Facebook. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?
J'ai pas très. C'est intéressant ça. Je pense que j'irai travailler avec Elon sur l'espace, sur quelque chose de complètement fou. En fait, ce que je fais, c'est relativement chiant quand ils pensent. Là, j'ai décidé avec Leaders de faire quelque chose qui me passionne. Donc, c'est totalement différent. Mais c'est pas un grand projet qui va changer le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'avais pas peur, j'irais bosser avec Elon pour envoyer des gens sur Mars ou faire des tunnels souterrains pour faire passer les Tesla. À chaque fois que je le vois, j'étais à TED au closing où il était. À chaque fois que je le vois, ça te remet à ta place de mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que le mec fait des trucs tellement incroyables. Et donc je ferai ça en fait, un truc vraiment très dur, parce que envoyer des fusées dans l'espace, sa dernière fusée va être capable de mettre un 747 entier dans la fusée avec la charge d'un 747 aussi, avec tout son cargo et son incroyable. Donc lui, il fait vraiment des trucs fous. En fait, si j'avais pas peur, je serais beaucoup plus fou. Là, je fais des choses finalement très raisonnables.
Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à Loïc, à 20 ans, qui va rentrer à HEC?
Ça, c'est pas mal, ça, comme question. Je dirais de ne pas construire des choses qui dépendent trop des autres. C'est probablement l'erreur numéro un que j'ai fait, c'est avec une boîte qui s'appelait Sismic. J'étais dans l'écosystème Twitter. Et le jour où ils ont décidé qu'ils reprenaient le contrôle de leur écosystème, j'ai perdu ma boîte avec des investissements de millions d'investisseurs. Ça a été très douloureux. Donc ça, c'est la première chose, de dépendre le moins possible des autres. Et ça, c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième, c'est un truc que j'ai pas fait. Je suis encore à temps parce que je suis pas si vieux que ça finalement. Mais c'est plutôt que de créer des boîtes tous les 2 ou 3 ans et les revendre, c'est ce que j'ai fait, d'essayer d'en créer une sur 10 ou 15 ans. Et ça fait plutôt un Facebook ou un LinkedIn. C'est un peu ma frustration finalement, c'est que j'ai très bien réussi à faire des petits trucs que j'ai revendus, mais j'ai rien fait de vraiment significatif. Et j'essaie là avec Leader, ça prend du temps. Hein. Mais si tu regardes Facebook, comment ils ont démarré, Google, et tout, c'était tout petit en fait au début. Et c'est totalement différent comme objectif. Je pense que j'avais un objectif court terme finalement, et ça a pas mal réussi. Mais c'est moins satisfaisant que de créer quelque chose qui est vraiment, qui a la capacité d'avoir un impact sur le monde. Et ça prend plutôt 10 ou 15 ans.
Ok, ben merci beaucoup Loïc. Pour que les gens puissent te trouver, ils vont sur leader.rs. Et sinon,
LEADE.RS, ouais.
Et sinon, at Loïc.
C'est Loïc
partout. Ouais, Loïc. Bien joué, en tout cas, pour les handle Twitter, etc.
C'est Loïc sur Twitter et tout ça. Mais le mieux, c'est vraiment ma newsletter. Et ça, c'est sur Leader, c'est LEADE.RS/Loïc newsletter. Faut que je trouve mieux, tiens. mais ça, c'est le mieux parce que tout est là. Merci en tout cas.
Merci beaucoup, Loïc. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.